à tous, très heureux de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle émission de prolongation, l'émission que vous pouvez retrouver de façon bi-hebdomadaire, bimensuelle plutôt, pardon, de 21h30 à 23h sur Radio Courtoisie, cette radio qui donne la parole à toutes les droites. Et ce soir, autour de moi, un casting un peu exceptionnel, puisque j'ai Edouard Lavolée.
Oui, bonsoir, journaliste. Comment allez-vous?
Bah, écoutez, en pleine forme, ça fait plaisir de vous, bah, vous
de
revoir.
Même, de même. Oui, je crois que j'étais pas venu depuis novembre, ça m'avait manqué. Je
me suis dit, bah, les autos sont futées depuis.
Oui, voilà. Combien sur la ménagère, vous êtes très faible, hein, c'est ça?
Je suis sur très la apprécié. Ménagère, sur le sexe féminin en règle générale.
Exactement,
ça.
Voilà, c'est vrai, je sais. Bah, je pense que là, aujourd'hui, on va connaître une courbe et on va concurrencer CNews et tous nos concurrents de droite hors les murs.
Alors, si on ne sait pas les concurrents d'habitude.
Pardon.
Et pour la première fois de l'histoire de cette émission de prolongation, nous avons la chance de recevoir une femme, et pas n'importe laquelle, celle qui porte courageusement depuis de nombreuses années la voix d'un féminisme engagé, Alice Cordier. Bonsoir Alice.
Bonsoir Stanislas.
Merci d'être parmi nous.
Je suis très ravie d'être là, c'est la première fois que je viens et je suis très contente de pouvoir intervenir, d'autant que nous sommes une période un peu de crise, et de pouvoir peut-être vous expliquer un peu plus longuement ce qu'on subit depuis un mois.
Tout à fait, ce sera justement les grandes lignes de cette émission où deux grands sujets vont nous animer. Évidemment, le sujet des municipales, dont le premier tour aura lieu dimanche.
Edouard, ouais, c'est le seul sujet. Il n'y a pas trop d'actu à côté.
Vous avez beaucoup d'informations d'ailleurs,
oui. Il y aura la séquence révélation à 21h45, c'est ça?
47 normalement.
47,
la 47e minute de cette émission va vous étonner.
Donc restez scotchés, coupez tout ce que vous faites. Il n'y a pas de match de foot ce soir. Donc,
voilà. Je ne crois pas, mais demain.
Il y a The Voice, c'est ça?
Il y a
le crunch. Ah oui, demain le crunch, à quelle heure?
France-Angleterre, 21h10, où la France peut gagner le tournoi Destination.
Je suis plus chocolat noir, moi. Non, c'est pas ça.
Et au cours de l'émission, très bonne blague.
Très bonne blague, rêve de 2002.
Rêve 2004. De 2002, très très bonne. Au cours de l'émission, le candidat à la mairie du 6e arrondissement de Paris, Hilaire Bouyer, sera également parmi nous. Il pourra nous parler de cette fin de campagne intense et nous dévoiler peut-être aussi les coulisses de cette réussite pour la campagne de la ville heureuse de Sarah Knafo. Mais avant, sujet évidemment beaucoup moins drôle, beaucoup moins léger, le sujet évidemment qui vous concerne, Alice. Vous avez été au cœur d'une crise immense au cours des dernières semaines, vous avez fait preuve d'un grand courage, et je crois que pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent, il est bon de rappeler qu'avec votre association Némésis, vous avez été victime de violences depuis de nombreuses années, mais particulièrement depuis quelques semaines. Vous avez été au cœur d'une polémique immense, puisque Quentin, jeune militant catholique et nationaliste, a été tué par les sbires de Raphaël Arnaud et de Mélenchon. Et la première question qu'on a envie de vous poser, peut-être, parce qu'on vous a beaucoup vu à la télé ces derniers temps, c'est comment allez-vous dans cette crise?
Écoutez, c'est une situation compliquée, on ne va pas non plus se mentir. Personne n'est prêt à ça, personne n'est préparé à gérer une crise d'une telle ampleur, parce que là, il y a mort d'homme. C'est souvent ce que je rappelle, là, on ne parle pas d'une crise que des entreprises pourraient avoir à subir ou des associations militantes qu'on a pu subir par le passé, des faits de violence. Là, il y a mort d'homme. Et c'est quelque chose qui est totalement différent et qui change la donne. Il y aura un avant et un après Quentin, on le sait tous, et surtout... nous, on a été confrontés au bloc staliniste. Je ne peux pas le dire stalinien, je ne peux pas le dire autrement. On a été confrontés à Jean-Luc Mélenchon, à la France insoumise, qui a mis en place une stratégie littéralement communiste face à nous. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et qui, du coup, nous attaque depuis un mois non-stop, au point, finalement, de dévier le débat. Donc, le vrai sujet, c'est ce drame où Quentin se fait lyncher. Les vidéos sont diffusées sur TF1. On a vu ce lynchage en règle, hein, à 10 contre 1. Jean Bexon, qui a fait un travail exceptionnel, d'ailleurs, chez Boulevard Voltaire, le montre. Apparemment, il y a des personnes en train de le dépouiller en même temps qu'il se faisait agresser, donc qui potentiellement lui maintenait les jambes. Enfin, on parle de quelque chose d'atroce. Il y a eu plus de 10 coups à la tête. L'autopsie montre qu'il y a eu notamment une trace de chaussures maintenues, enfin, vraiment encastrées dans son crâne. Enfin, je veux dire, on parle de quelque chose qui est horrible, d'une violence mais démultipliée sans aucune mesure. Mais Jean-Luc Mélenchon a réussi à dévier la chose et à parler de Némésis, du fait que nous aurions attaqué ce meeting-là, que nous aurions organisé un guet-apens, que en fait Quentin serait mort à cause de nous. Et il le dit explicitement, hein. Quentin est mort à cause de Némésis parce qu'elle nous attaque.
Vous avez porté plainte contre Mélenchon d'ailleurs.
Tout
et
à fait.
Contre beaucoup de représentants de la France insoumise.
On a lancé plus d'une centaine de plaintes, hein, parce que depuis un un mois, on subit un jour public diffamation et incitation à la violence vis-à-vis de l'association. Et sont mis en cause un certain nombre de députés de cadre de la France Insoumise, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui a dit que ce qui s'était passé à Lyon dans l'affaire Quentin, c'était un guet-apens mis en place par Nemesis. C'est absolument faux. On a Paul Vanier, on a Emma Fourreau, on a Manon Aubry, enfin, voilà, toute cette petite bande, cette garde rapprochée, les laquais, hein, comme je les appelle, de Jean-Luc Mélenchon, qui en fait vont dans son sens, savent que ce n'est pas la réalité, mais ils vont quand même pour essayer de sauver ce qu'ils peuvent de la France Insoumise, parce qu'en vérité, ils ont face aussi à une crise sans précédent où plusieurs membres de leur service d'ordre ont tué un jeune homme qui était là pacifiquement pour protéger des filles.
Moi, j'aimerais savoir comment on fait comme ça quand on assiste à un drame et qu'on est confronté à un contre-récit médiatique qui se met en marche extrêmement rapidement et avec le soutien à la fois d'une presse de gauche qui commence à créer la fameuse inversion accusatoire et des partis politiques, évidemment, avec en figure de proue la France Insoumise qui, pareil, vous cloue au pilori Némésis au lieu de faire le ménage dans ses propres rangs et notamment chez la Jeune Garde.
C'est un système, en fait, c'est un véritable système composé d'un parti politique, de médias qui leur sont attitrés, parfois même de médias du service public et de gens sur les réseaux sociaux qui sont là pour relayer, de militants qui sont là pour relayer leurs bonnes paroles. Donc en fait, c'est extrêmement compliqué, c'est violent, c'est vraiment très violent. Maintenant, nous, notre association, on a toujours su qu'on serait confronté à de la violence. Mmh. On y est confronté depuis très longtemps. Là, c'est à son paroxysme, mais en plus, on est face à... Voilà. Mais moi, j'ai aussi envie de dire, c'est des gens... mon engagement, il est aujourd'hui contre l'immigration, mais en fait, je n'ai rien contre les migrants. Moi, j'ai toujours expliqué que ma colère, elle n'allait pas contre eux, elle est contre les gens qui les faisaient venir. Et donc, moi, c'est des gens que initialement, je n'admire pas, qui sont mes ennemis. Et moi, j'ai toujours été... on est en guerre, en fait. Et moi, je ne suis pas en guerre depuis un mois. Moi, je suis en guerre depuis 6 ans. Moi, je suis en guerre même, je dirais, depuis que j'ai 15 ans et que ma sœur s'est faite agresser dans les transports, en fait. Moi, j'ai toujours été prête à de la violence, j'ai toujours été prête à ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on tient. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est qu'on a énormément de soutien. On voit, évidemment, Jean-Luc Mélenchon qui s'organise et qui est un système extrêmement structuré. De toute façon, au sein des communistes, ils ont toujours su être très bien dans tout ce qui est propagande et terrorisme intellectuel. Mais nous, je suis désolée, à droite, en tout cas, en face à Jean-Luc Mélenchon, il y a des gens extrêmement structurés qui nous soutiennent énormément, des médias, des politiques, des influenceurs. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir une association exceptionnelle, et ça je ne me lasserai pas de le dire, et qui est une famille.
Justement, deux choses là-dessus, Alice. La première, c'est que votre association, elle est victime de violences depuis de nombreuses années, depuis en réalité votre création en 2019. Vous êtes attaqué, très très souvent attaqué. Vous avez toujours tenu bon. La première question, c'est quelle est la suite pour Némésis? On a vu une grande solidarité aussi des militants de droite envers vous. Et la deuxième chose, c'est que pour la première fois peut-être aussi de la courte histoire politique et moderne avec les réseaux sociaux, les nouveaux médias, on considère que le récit a été relativement équilibré, que la vérité étant tellement éclatante sur cette affaire qui est atroce, des grands médias comme TF1, comme Le Figaro.
Même politiquement, il y a une minute de silence à l'Assemblée.
Une minute de silence à l'Assemblée
nationale.
C'est un symbole. C'est
un symbole
très fort.
Il n'y en a pas eu pour Clément Méric.
Il n'y en a pas eu pour Clément Méric. On sent quand même qu'il y a un vent, et si je puis permettre une anecdote, nous étions tous les deux, avant de rejoindre cette émission, dans un café. Quelqu'un est venu vous voir en vous remerciant, en vous félicitant, en disant qu'il admirait ce que vous aviez pu mettre en œuvre. Alors voilà, ces deux questions, c'est comment votre organisation Némésis va-t-elle... s'organiser par la suite. Enfin, on a vu cette grande solidarité. Deuxièmement, que pensez-vous de la réaction de votre camp?
C'est difficile de répondre à la suite de Némésis parce qu'en fait, là, depuis un mois, on a la tête sous l'eau. On est en train de gérer cette histoire, cette crise qui, en fait, chaque jour, il y a une nouvelle crise dans cette crise. Et chaque jour, on est obligé de répondre à un certain nombre d'accusations ou de ne pas répondre, d'ailleurs, quand notamment il y a de la diffamation. Il y a tout un travail juridique qu'on est en train de faire. Et donc, en fait, je dirais qu'à court terme, là, on est en train de résister. Et puis, dans un second temps, on va réagir. Et on arrivera à connaître l'avenir de l'association, parce qu'il y a un avant et un après. J'ai commencé l'émission en le disant, on ne peut plus retourner demain envoyer une militante au front quand on sait que maintenant, ils tuent.
Mais, je fais une digression, mais c'est aussi un peu le principe de l'émission qui va un peu dans tous les sens. Et c'est le plaisir de vous recevoir qui nous donne... D'ailleurs, vous allez rester évidemment plus longtemps que...
Absolument pas.
si, je vous connais. Je vous précise à l'histoire, vous êtes une grande habituée des plateaux de TV. Prolongation, c'est particulier. On sait qu'on
rentre. Il n'y a pas de conducteur.
Il n'y a pas de conducteur.
Ça peut finir à minuit.
Devant moi, il n'y a pas de papier.
Il n'y a rien du tout. Là.
Globalement, les questions arrivent au fil de l'eau. Non, mais pour être plus sérieux, deux secondes. Comment peut-on vous aider? Ça, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, justement, c'est pour ça que je vous demandais comment va s'organiser un peu Nemesis, mais on savait, et vous comme moi, pour en avoir déjà beaucoup discuté, on savait que ces gens-là étaient des personnes très très violentes et des personnes d'une dangerosité sans nom. Comment allez-vous réussir à... Ah, je vois d'autres invités arriver, mais...
Il faut savoir que dans le studio, là, c'est l'auberge espagnole.
Ça rentre un peu, mais comment allez-vous réussir à vous organiser? Parce que vos militantes, rappelons-le, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Nemesis, c'est un collectif de jeunes femmes qui luttent contre l'insécurité, mais puis globalement pour le féminisme qui souhaite l'égalité entre les hommes et les femmes, et qui notamment s'acharne à lutter contre les victimes de migrants, d'étrangers qui ne sont jamais mentionnés par la gauche mainstream et les féminismes.
Tout à fait, et vous faites bien de le rappeler, nous on est une association de victimes initialement. On est une association qui s'est montée parce que nous étions plusieurs femmes victimes de l'insécurité et qu'à partir de là, on a décidé de ne pas baisser les yeux et de ne pas se rendre. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Parce qu'il y a l'affaire Quentin, nous on n'est pas une association dont le but est uniquement d'aller contre la France insoumise. Nous on va contre la France insoumise parce qu'on les pense responsables d'un déclin français. Voilà. D'un déclin français, on les pense responsables du fait qu'aujourd'hui il y a des femmes qui sont autant en insécurité dans l'espace public parce qu'ils incitent à l'extrême gauche, à une politique pro-immigration, etc. Donc forcément, ce sont des opposants. Maintenant, comme je vous dis, l'avenir de Nemesis, il est incertain et c'est pour ça qu'on doit être soutenu. D'abord, nous on a besoin sur les réseaux sociaux de gens qui se coordonnent, de gens qui sont là pour vraiment nous soutenir, pour expliquer que on est une association de victimes, pour le rappeler. En fait, pour rappeler pourquoi on a créé Nemesis.
Oui, pour rappeler parce que vous êtes encore une fois, vous êtes. Et d'ailleurs, dans l'action, rappelons-le pour nos auditeurs, avant le drame qui a mené à l'assassinat de Quentin, c'est des militantes qui dénoncent l'arrivée de Rima Hassan à Sciences Po et qui sont déjà victimes de violences énormes.
Complètement. Et puis la seconde chose, c'est que nous, on aura besoin, évidemment, là, on va enclencher énormément de plaintes pour tout un tas de choses, diffamation, injures publiques, incitation à la haine, etc., vis-à-vis de notre association. Donc, il y a aussi un besoin financier qui est réel, dont on aura besoin par la suite, parce qu'une centaine de plaintes, évidemment, c'est compliqué. Maintenant, on est très sereine, on a les moyens, et tous nos avocats sont formels, de faire condamner Jean-Luc Mélenchon, de faire condamner vraiment tous les ténors de la France insoumise, et ce sera une victoire, mais qui aura lieu après les présidentielles. Et Jean-Luc Mélenchon, il sait très bien, c'est pour ça qu'il impose un discours diffamant, parce qu'il sait qu'à court terme, il n'a pas le choix.
Et d'ailleurs, petite question, mais vous qui êtes très au fait de cette affaire, évidemment, où est Raphaël Arnoux?
Mais il est là ce soir. Non, je...
c'est une vraie question qu'on peut se poser. Moi, je pense que dans toute organisation militante, Raphaël Arnaud est cofondateur de la Jeune Garde. Quand un de vos militants soit fait un fait d'armes, et pour eux, un fait d'armes, c'est lyncher un nationaliste, ou quand vous faites une bêtise dans le cadre d'une action, votre premier réflexe, c'est d'appeler votre chef. Je ne suis pas au cœur de l'enquête, je n'ai pas accès à l'enquête, etc., au dossier complet. Je ne suis pas enquêtrice, mais néanmoins, on peut se questionner sur le fait, est-ce que Raphaël Arnaud n'a pas reçu un coup de fil, un appel, un texto, peu importe, de Jacqueline Favreau ou de n'importe quel de ses attachés parentaux, parce que je rappelle quand même qu'il y avait un lien de proximité extrêmement fort.
Ils étaient employés de Raphaël Arnaud.
Jean Bexon dit avoir identifié parmi un des mecs ayant un des meurtriers de Quentin direct. C'est-à-dire que jusque-là, on disait que Jacqueline Favreau était le meneur. Là, visiblement, des images qui montrent qu'il a été aussi le tapeur. Et ce qui change aussi également la donne. Moi, je me questionne, est-ce que Jacqueline Favreau, enfin, un réflexe qui me semblerait logique, c'est qu'il est tout de suite appelé Raphaël Arnaud en lui disant ah, on a attaqué le vaisseau de Nemesis, sans imaginer, parce que en fait, il faut savoir aussi que dans la chronologie, on n'apprend pas tout de suite qu'un membre de notre sécurité est à l'hôpital, et on apprend très vraiment.
Vous avez été diffamé d'ailleurs là-dessus, et puis pour eux-mêmes mettre les choses au clair, il se trouve que nous sommes croisés ce soir-là, et personne n'était au courant de ce drame. On savait seulement, et c'est important de le rappeler, que Nemesis avait déjà été victime de violences de la part des militants extrêmes.
Totalement, c'était le 12 au soir. Nous, on apprend le 13 au matin qu'on a un membre de notre sécu qui est à l'hôpital dans un état grave. Et c'est que quelques heures après qu'on apprend qu'il est en état de mort. Donc en fait, mais il faut savoir que sinon, on l'apprend aussi tard. En fait, les militants d'extrême gauche l'apprennent encore plus tard que nous. Et qu'à ce titre, ils n'imaginent pas. On peut imaginer que l'information qu'ils ont lynché un FAF. ou plusieurs d'ailleurs, a circulé bien largement dans les réseaux antifascistes et que sans doute que Raphaël Arnaud était au courant en quelques temps.
Edouard Lavallée, dans cette bataille culturelle chère à Gramsci, la sémantique est très importante. Est-ce que vous considérez que la jeune garde, et en général les antifas sont des groupes terroristes comme ils le sont considérés aux États-Unis?
Mais c'est évident, et pas depuis la mort de Quentin en fait. La vérité c'est qu'il y a un terrorisme intellectuel déjà qui met en place, mais un terrorisme physique. C'est pas nouveau que des militants de droite se font attraper. Il existait des groupes Telegram extrêmement précis, ou même sur Twitter d'ailleurs, de gens d'extrême gauche, d'antifa, en train de lyncher des personnes dites de droite. Mais en fait, dites de droite, ça va très loin.
Ruffin était traité de fasciste, Roussel de
Doriot.
Tout à fait, on a des militants Renaissance qui ont
accueillis à la fête de l'humain. Bon, c'était pas des antifas.
Entre eux, ils règlent ça, mais des militants de Renaissance également ont été frappés. On se rappelle que la jeune garde a été dissoute pour antisémitisme parce qu'ils avaient agressé une personne juive dans le métro, aux abords d'un meeting de Rimasson, là bien encore. Sûr. Donc en fait, si vous voulez, le terrorisme, il est là depuis longtemps. Mais en fait, moi, le terrorisme, je le vois vraiment aussi à l'application avec un terrorisme intellectuel qui est mis en application en ce moment. Nous, on a des militantes qui sont terrorisées, qui auront peur de retourner sur le devant de la scène. Et Jean-Luc Mélenchon, quand il nous attaque à Dominem, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait qu'il y aura chez Nemesis des militantes qui auront du mal à retourner militer.
Et même il continue de nous menacer d'ailleurs.
Et il continue de nous menacer en disant si la police ne s'en charge pas, on s'en chargera.
Et c'est la réciproque, vous estimez qu'il y a une complaisance de, notamment des partis politiques de gauche envers ce terrorisme d'extrême gauche, parce que c'est un terrorisme entre guillemets louable, avec une visée noble, c'est de lutter contre le fascisme, qui est évidemment le plus grand danger pour la société.
Complètement, moi j'ai vu sur Twitter des messages hallucinants de gens qui disait « Non mais attendez, si t'avais eu Goebbels en face de toi, est-ce que tu l'aurais tué ou pas ?» Bon bah là, Quentin c'était un Goebbels, donc Quentin c'est logique qu'on le tue. En fait c'est ça, en fait la logique, on nazifie l'ennemi pour justifier qu'on le fasse tuer n'importe quoi.
Et tout le monde est nazifié aujourd'hui et c'est ce qui permet la...
Et nous depuis une semaine là, c'est que ça. Nemesis en fait c'est des nazis parce que elles font des signes de rappeur. Et puis,
alors que rappelons-le, encore une fois, avec votre collectif, vous ne faites que pointer...
On est un collectif de victimes.
Surtout, vous êtes pacifiste, surtout. Enfin, vous déployez des banderoles, on est d'accord ou pas avec ces banderoles, mais vous faites pas du tout d'agitprop. Hein. On n'aime pas les anglicismes ici, vous êtes turbulente, mais pas du tout agressive.
Mais turbulente, encore une fois, on parle de...
Ah, mais turbulente,
même vis-à-vis,
c'est un peu exagéré en plus.
Si on compare avec des femmes, vous êtes moins virulente que des femmes.
Bien sûr, et puis en fait, quand même, peu importe ce qu'on dirait.
Même si vous êtes plus jolie,
en
général.
Peu importe ce qu'on pourrait trouver sur nos banderoles, sur nos affiches, peu importe ce qu'on pourrait trouver sur notre Twitter, il n'y a rien qui justifie qu'on tue qui que ce soit pour ses idées. Il n'y a rien qui justifie qui que ce soit. Peu importe ce que Quentin ait pu dire, tweeter. En fait, peu importe, parce qu'il y a cette polémique en ce moment, qui d'ailleurs est largement sulfureuse de la part de Metapart. Peu importe, il n'y a rien qui ne justifie un meurtre.
Et disons-le, il y a quand même un vrai scandale, et j'en présenterai les autres invités qui nous ont rejoints ce soir, mais Mediapart est quand même allé sur la tombe de Quentin pour la décrire, pour aller compter le nombre de fleurs,
pour diffuser le lieu, pour venir
sur cette tombe pour inciter d'une certaine façon implicitement, pour quasi justifier dans cette logique de nazification de l'adversaire que ce qui a été fait par la jeune garde n'est pas si grave que ça, puisque dans le fond, il le méritait peut-être un petit peu. Et il y a une espèce de volonté de contre-récit de la part de l'extrême gauche, alimentée évidemment par leur leader Mélenchon, qui est extrêmement préoccupante. Et moi, ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est la réaction du centre. Ouais. Et ça va me permettre la transition pour présenter mes invités, mais des élections municipales, où une partie de la gauche dite républicaine va peut-être s'acoquiner avec des militants, des élus, des candidats de la France Insoumise.
Mais ils le feront toujours. Enfin, là, ils crient au théâtre, par exemple pour les dérapages antisémites de Mélenchon, mais la veille au soir devant le péril fasciste, évidemment qu'ils s'allieront, alors qu'ils se traitent de Doriot deux semaines avant. On l'a vu pendant les européennes. Mais c'est la force, entre guillemets, la force de la gauche, c'est de voir, d'imaginer un péril bien plus grand que celui que ne le voit la droite. On va en parler évidemment, mais quand la droite n'arrive même pas à s'allier à Paris, on se doute qu'elle n'arrivera pas à s'allier au plan national.
Vous faites une transition parfaite. J'ai la chance de recevoir sur cette émission Hilaire Bouyer, qu'on ne présente plus peut-être, mais qui est candidat à l'élection du 6e arrondissement de Paris et qui est également 6e de liste sur la liste principale de Sarah Knafo aux élections municipales pour une liste heureuse, donc une ville heureuse, qui est la liste soutenue par Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Nous avons également la chance d'avoir Mathieu Louvès qui est parmi nous ce soir et qui nous fait l'honneur de sa présence. Vous serez de passage un court instant, mais votre avis sera éclairant sur beaucoup de points. Et Emmanuel Picot qui est lui candidat à Versailles dans les Yvelines. Donc merci Emmanuel également d'être présent parmi nous. Peut-être avant de commencer sur ce qu'a dit Alice à l'instant peut-être une réaction hilaire sur l'extrême gauche à Paris.
J'ai lu, bonsoir à tous, bonsoir Alice et bonsoir à tous les chroniqueurs et aux présentateurs Stanislas. J'ai lu l'article de Mediapart et qui essaye de justifier le fait que Quentin ait été lynché à mort, qu'il ait été massacré. Effectivement, vous l'avez dit Stanislas, ils sont allés jusqu'à regarder sa tombe, regarder quelle fleur était sur quelle tombe, où était la tombe, dans quel lieu, où est-ce qu'il était enterré. Ils sont allés jusqu'à justifier l'injustifiable. Et c'est assez ignoble. On a vu cette semaine beaucoup d'attaques sur Alice Cordier qui est là ce soir. Et tous les contre-feux sont possibles, tous les contre-feux sont permis, j'ai l'impression. On essaye comme on peut d'effacer cet assassinat, ce massacre horrible du jeune militant Quentin. Et quels qu'aient pu être ces tweets, on parle juste d'un jeune homme qui a été massacré, lynché au sol et laissé pour mort.
Peut-être, Mathieu Louvès, vous êtes expert en communication numérique. On a vu une riposte graduée de la France Insoumise, mais vous êtes, vous, un expert de ce domaine. Comment riposter face à ces militants d'une extrême violence?
Moi, je crois qu'il faut simplement assumer. Reconnaître que, Quentin était un militant. Peu importe de quel bord. Évidemment, il ne mérite pas son sort. On voit très bien l'extrême gauche, notamment Mélenchon, qui assume parfaitement que les mecs de la Jeune Garde, comme Raphaël Arnaud, aillent tabasser des militants de droite. On les voit défendre des positions parfois complètement indéfendables, comme celle de Rima Hassan sur certains événements au Moyen-Orient. Donc, à mon avis, le mieux, c'est de se mettre quelques œillères, nous, de continuer notre chemin. Je crois qu'on est dans le vrai. On n'essaye pas d'inventer un récit. On ne fait que dire la vérité. Et je pense que ça finira par payer, puisque la vérité est toujours l'ennemi de ceux qui cherchent à manipuler les faits, donc très généralement de la gauche.
C'est Napoléon, ça ?
Non, c'est plutôt...
C'est plutôt la philosophie.
Mais sincèrement, je pense qu'il faut assumer, en fait, sur les réseaux sociaux. Parfois, on a tendance à vouloir s'excuser, à se dire, on est de droite, la doxa nous insulte, nous lance des cabales contre nous. Je pense qu'au final, on s'en fout. Honnêtement, sincèrement, les Français qui nous soutiennent et qui continuent à voter, que ça soit pour Reconquête, pour Éric Zemmour, pour Sarah Knafo, pour le Rassemblement National, je pense qu'ils ne font même pas attention ce que peuvent dire un Émeric Caron ou des articles enquête de Street Press ou de Mediapart. Donc tout simplement assumer, continuons, dénonçons ce qu'il y a à dénoncer, c'est-à-dire l'assassinat d'un pauvre garçon qui même si c'était pendant une bagarre ou je ne sais pas, ne méritait pas d'être lynché au sol par 5 personnes.
Mais c'est important, je te dis, Mathieu Louvès.
La vérité s'imposera d'elle-même.
Ce qui est important, et vous le rappelez, c'est que ce n'est pas simplement un militant mort. C'est un jeune homme tabassé à 15 contre 3, au sol, roué coup sur la tête, avec une volonté ferme de mettre fin à ses jours. Ce n'est pas simplement une bagarre qui aurait dégénéré. C'est une volonté de tuer. Et je crois aujourd'hui que il est important de le redire et de le redire et de le redire, mais évidemment nous avons une pensée toute particulière pour sa famille, pour ses proches qui ont enduré un calvaire. On pense évidemment à ses amis qui sont closement défendus, évidemment aux militants de Némésis à Lyon qui se sont retrouvés face à un drame et face à un péril, et à toutes les personnes qui, à l'occasion de cette sordide affaire, ont fait preuve d'un grand sens de la loyauté envers la cause. Emmanuel Picot, peut-être pour... clôturer le sujet, si vous avez une question ou une remarque peut-être à faire à Alice Cordier sur le sujet.
Non, écoutez, déjà merci, bonsoir à tous, merci Stanislas pour l'invitation. Je vous présente mes excuses sur le retard, comme vous l'avez dit, on est en campagne jusqu'à ce soir minuit, donc effectivement les minutes sont comptées.
On a encore 2 heures pour tracter et soutenir le candidat que vous souhaitez. Alors sur Radio Courtoisie, on encourage rarement à soutenir Chichirou ou Emmanuel Grégoire, mais des candidats de droite qui veulent faire de cette ville une ville plus belle, et vous mettez l'adjectif que vous voulez après.
Une ville contente, on va dire.
Une ville satisfaite.
En tout cas, on appelle à s'engager. En tout cas, on appelle les jeunes à s'engager, évidemment. Moi, c'est très triste parce que la dernière fois que je suis intervenu sur cette émission, c'était justement le lendemain de l'agression de Quentin. Et c'est vrai que je voudrais pas avoir l'habitude de revenir trop souvent ici uniquement pour parler de Quentin. J'ai évidemment suivi la suite médiatique qui a suivi le décès. Non, écoutez, pas de grandes questions à Alice, si ce n'est évidemment un soutien sur tout ce que vous endurez depuis tout ce malheureux drame. Évidemment, on continue le combat et on vous soutiendra dans tous les cas, que ce soit au côté d'Éric Zemmour ou avec Reconquête et tous les militants. On continuera évidemment à soutenir ce que vous défendez. Donc voilà, c'est non pas une question, mais plutôt une forme de soutien envers ce que vous défendez.
Merci beaucoup vraiment, parce que tous les partis ne sont pas aussi fidèles et loyaux que vous, notamment à droite, et donc c'est appréciable pour nous, parce que nous, il faut savoir que depuis vraiment un mois, bah voilà, on a des députés LFI qui sont comme des chiens en train de courir après leur os, et nous sommes l'os depuis un mois. C'est non-stop, c'est tous les jours. Ils essayent de déterrer les choses, machin, de faire des liens. C'est assez ridicule d'ailleurs au demeurant, et c'est de l'acharnement. Et littéralement, c'est de l'acharnement. Et nous, de nous voir cités directement au meeting de Jean-Luc Mélenchon, au meeting, mais aussi de presque tous les candidats aujourd'hui. On a juste David Guiraud qui est très discret, parce qu'il sait que lui, il a la possibilité de gagner peut-être la mairie de Roubaix et qu'il faudrait surtout pas qu'il soit mêlé à cette affaire-là. On les voit d'ailleurs, ceux qui se présentent littéralement.
Ouais, ceux qui sont là pour gagner,
ils
n'en parlent pas de vous. Ouais,
de l'ONU, pareil, très très discret, parce qu'ils savent en fait. Et c'est ça qui montre que littéralement, cette affaire leur pèse énormément et qu'ils savent qu'ils ont du sang sur les mains, qui sont pas du tout clean dans cette histoire, c'est que ceux qui ont vraiment de l'enjeu et des élections là n'en parlent pas. Et ceux qui n'en ont pas font une espèce de bouclier en justement parlant de nous et en s'acharnant sur nous et en essayant de dévier le débat.
Mais même Rima Hassan a un petit peu lâché.
Rima Hassan nous a énormément agressé au début.
Non, à la fin, elle a
plus. Si, oui.
Au début, elle nous a énormément agressé. Alors, moi, elle m'a bloqué sur les réseaux, donc je vois plus ce qu'elle dit. Mais au début, ça a été infernal.
Rima, si tu nous entends.
Je crois qu'elle nous écoute. Moi, j'avais vu une fois à la sortie de l'Assemblée. Elle adore ta présentation.
Tu passes quelques soirs avec elle aussi.
C'est évident.
Oui, aux iftars de la paix.
Mais ce qui est vrai, c'est que, honnêtement, Alice, si on met un peu de légèreté dans la discussion sur un sujet qui est très grave, est-ce que dans le fond du fond, et idéologiquement parlant, et stratégiquement parlant, Jean-Luc Mélenchon ne vous a-t-il pas offert votre plus belle médaille, à savoir être l'ennemi numéro un de la France insoumise?
Ah, moi, alors, la période est dure pour nous, mais d'une certaine façon, c'est une médaille immense que d'être cité par Jean-Luc Mélenchon dans un de ses meetings. Enfin, je veux dire, c'était, il a bien dit, Alice Cordier. Donc à partir de là, oui, en fait, il nous élève à un rang qui n'était peut-être pas le nôtre à ce moment-là. Et c'est peut-être là que moi, j'ai pris conscience de la gravité de ce qu'il s'était passé et de sa responsabilité là-dedans. Parce que pour qu'il en vienne à s'acharner sur une petite association, parce que, pardon, on n'est pas une énorme association subventionnée, Nemesis, c'est pas une ONG, hein, il faut se calmer deux minutes, hein, on était avec un drap, c'est
même si on
devant.
Peut vous aider, vous,
même
on
si vous pouvez totalement nous aider.
On peut que vous le souhaitez.
Et les dons sont défiscalisables. Et donc, à partir de là, on peut complètement le dire, on est une petite association, et pour qu'il se sente sur notre petite association, c'est que littéralement, on lui a fait du tort, il le sait, il essaye, là il y a une pétition qui récolte énormément de voix pour nous dissoudre, tous les députés LFI depuis une semaine font un pressing pas possible pour nous dissoudre, mais en fait, la vérité c'est que si jamais en tout cas Laurent Nunez ne faiblit pas, et on sait que il pourrait avoir la main leste, mais enfin on verra bien, c'est qu'on en sortira mais mille fois plus grandi en fait de cette affaire, parce que une fois qu'on s'est pris la meute, je vois pas ce qu'on peut se prendre de pire.
Seul face à la meute, Alice.
Peut-être une dernière question. Vous avez un peu répondu en substance.
Oui, je dois y aller, absolument. Ah,
vous y allez.
Est-ce que vous avez été quand même
surpris et on va dire satisfaite par l'élan de soutien quand même qu'il y a eu, notamment dans la classe politique, enfin, de droite, hein, surtout, je parle. Et où vous êtes, est-ce que vous vous attendiez à ce soutien ou pas, qui était quand même unanime au début, en tout cas, et avec une minute de silence qui a été respectée à l'Assemblée, ou vous, voilà, quel est votre sentiment là-dessus un mois après les faits.
Ah, bien sûr, non, mais ça c'est vrai, il y a eu pour Quentin des faits qui ont été établis, et de toute façon après il y a aussi le fait que le procureur très rapidement a dit une version des faits qui ne laissait aucun doute sur ce qu'il s'était passé. Et je pense que ça a permis de comprendre vraiment que nous étions dans une démarche pacifique, que notre groupe s'est fait attaquer, qu'ils ont été lynchés à mort pour leurs idées. Et donc à ce titre, je pense que toute personne qui un temps soit peu attachée à l'idée de la France condamne cela, mmh. et que toutes les personnes qui ont mis des mais à ce drame sont des personnes qui sont placées déjà de l'autre côté, de la côté de, vraiment mmh. De l'obscurantisme communisme.
Et de la traîtrise au pays, parce que rappelons-le, il faut rappeler les noms des personnes mises en cause pour l'instant, soit directement, soit indirectement dans l'affaire. Jean-Luc, Raphaël, Manuel, Jacqueline.
Tout à fait.
C'est des prénoms, et en réalité, tout le monde le sait, les pédigrés des uns et des autres, c'est sorti. Ce sont évidemment des petits bourgeois mmh. Qui se donnent des sensations en se croyant, en se pensant révolutionnaires.
Tout à fait, qui sont parfois soutenus par leurs parents, parce que quand on voit la réflexion du père de Jacques-Élie Favreau...
Qui est honteuse, il faut le dire.
Qui est honteuse et ignoble vis-à-vis des parents de Quentin, qui explique que son fils sera blanchi, finalement son fils n'est absolument pas blanchi, parce qu'on le voit même en train de mettre des coups.
Oui, c'est pire en pire.
Et voilà. Mais par rapport à ça, voilà, pour terminer, il y a eu un véritable élan de soutien, mais j'espère que cet élan de soutien ne va pas s'arrêter avec des articles de Mediapart. J'espère que c'est pas l'humanité demain qui va dicter un certain nombre de partis pour qui il faut soutenir, qui ne faut pas soutenir. Mais après, voilà, il y a un élan qui est global, il y a un bon sens et on voit un vrai, le vrai visage de la France insoumise qui, depuis ses débuts de la crise, je le rappelle, n'est pas du tout dans une démarche de mea culpa. Pas du tout, et qui est tout totalement en train de soutenir la jeune garde de A à Z.
J'ai une toute dernière question, mais pareil, on vous avez pas répondu. Est-ce que vous pensez que cette affaire va disqualifier la France insoumise ou pas du tout? Ce serait quand même assez décourageant de voir que des millions de Français pourraient continuer à voter pour un parti dont un collaborateur parlementaire a assassiné, a tué un autre jeune. Est-ce que paradoxalement, ce genre d'affaire peut pas aussi les renforcer, parce qu'on sait très bien que LFI. Et à la fois contre les autres partis, aussi le parti des médias, donc on va dire théorise toute cette conflictualité. Et depuis un mois, ils sont tout seuls à faire front contre le.
Je suis pas commentateur politique, moi j'ai surtout la sensation que LFI essaye, enfin en tout cas Jean-Luc Mélenchon essaye de renforcer son auditoire et d'essayer de les convaincre à court terme que voilà, ils n'ont rien à se reprocher, etc. Moi, j'ai quand même la sensation que ça a fait du mal et que des personnes le diront peut-être pas publiquement, mais ne voteront plus jamais pour eux, parce que ce que retiennent les gens hors milieu parisien, hors milieu médiatique, hors milieu politique, c'est quand même que
un gamin a été tué par
des proches de Jean-Luc Mélenchon, voire par vraiment le serviteur de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il l'assume totalement que la jeune garde était son serviteur.
En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le soutien évidemment de toutes les personnes présentes sur ce plateau et de beaucoup de Français, pas simplement des militants, mais aussi des Français qui sont scandalisés de ce qui vous arrivait, qui évidemment prient et honorent la mémoire de Quentin, qui a été tué lâchement par des racailles d'extrême gauche. Et en tout cas, Alice, un grand merci d'être venue parmi nous ce soir. En plus, il faut le dire, un petit peu débeauté.
Oui, c'est vrai.
Nous aurions aimé évidemment vous garder plus longtemps, mais vous avez des obligations.
Tout à fait.
Et je crois que vous avez des journées très chargées. Donc, chère Alice, merci beaucoup d'être venue. On va pouvoir écouter... Une belle chanson militaire, Les combats de Tulé, qui rappelleront à certains auditeurs évidemment une période agitée d'histoire de France, et avec un chant magnifique.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, de nouveau, bonsoir. Très heureux de vous retrouver avec ton invité de marque, Hilaire Bouillet. Hilaire, vous êtes candidat à la mairie du 6e arrondissement de Paris et en 6e position sur la liste principale de Sarah Knafo, une ville heureuse. Bonsoir et merci de prendre le temps de venir pour vos dernières interventions télévisées et radio dans notre émission.
Bonsoir Stanislas et bonsoir à tous et bonsoir à tous les Parisiens qui iront voter, je l'espère, en nombre ce dimanche.
À côté de moi pour mener cet entretien, Emmanuel Picot, expert politique mais aussi candidat dans les Yvelines à Versailles. Édouard Lavollée, journaliste, éditorialiste politique.
Bonsoir,
et Mathieu Louvès, expert en communication numérique. Merci à tous les trois d'être là. Peut-être hier, première question, votre intuition à quelques heures du scrutin, il reste maintenant 2 heures de campagne, que peut-on attendre de cette élection à Paris?
On peut attendre beaucoup de choses et surtout les Parisiens attendent un changement. Ça fait 25 ans qu'on est sous du socialisme à Paris. Ça fait après Delannoy, après Anne Hidalgo, les Parisiens, je pense, n'en peuvent plus. Les Parisiens ont été extrêmement déçus par tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été proposé. Et je pense que les Parisiens veulent mettre ce dimanche un grand stop à tout ce qui a été mis en place. Les Parisiens aussi attendent un programme, attendent des solutions et attendent que toutes les horreurs que le socialisme a pu mettre en place, que toutes ces horreurs soient stoppées, qu'il y ait un vrai coup d'arrêt. Les Parisiens, dans cette campagne, ont découvert une candidate nouvelle d'un parti nouveau, d'une liste ouverte, d'une liste sans étiquette, d'une liste avec des personnes de la société civile, des Républicains, des personnes issues du Rassemblement National, des personnes issues évidemment de Reconquête. Et cette liste sur laquelle j'ai la chance et l'honneur de figurer, c'est la liste de Sarah Knafo. Les Parisiens ont découvert Sarah Knafo, les Parisiens ont découvert 130 pages de programme. Les Parisiens ont découvert ce que pourrait être une ville heureuse s'ils votaient pour Sarah Knafo. Et je pense que les Parisiens rencontrés tous les jours sur les marchés, en tractage, en réunion publique, les Parisiens qui ont découvert sur les réseaux sociaux les interventions, tous les éléments de programme de Sarah Knafo, ces Parisiens, je pense, ont ouvert les yeux. Et pour ces Parisiens, un espoir s'est levé. Et je pense que cela sera confirmé, en tout cas je le souhaite, que ce dimanche, les Parisiens votent nombreux, votent en masse pour ce programme de Sarah Knafo, pour ce programme de Sarah Knafo avec une ville heureuse, pour enfin transformer Paris.
Mais la question que tout le monde se pose, Hilaire, c'est le mode de scrutin. C'est-à-dire que vous étiez à la fois candidat sur la mairie centrale, mais également pour la mairie du 6e arrondissement de Paris. Peut-être avant de rentrer dans des débats un peu plus politiques, pouvez-vous nous expliquer concrètement comment ça va fonctionner dimanche 15 mars?
C'est très très simple. Dimanche 15 mars, vous aurez deux bulletins, deux urnes. Un premier bulletin pour élire directement votre maire d'arrondissement, dans quel que soit l'arrondissement dans lequel vous êtes et dans lequel vous votez. Et un bulletin pour élire directement le ou la prochaine maire de Paris.
C'est plus simple qu'avant. Même, parce qu'avant, ça passait par un système de grands électeurs. On votait pour un seul candidat.
Édouard Lavollée, journaliste.
Et ça a été simplifié en septembre dernier, je crois, à Lyon, Marseille et Paris.
La
et
loi
ça
PLM.
Clarifie la loi PLM. Voilà,
ce qui est important surtout de dire, c'est que avant, par exemple, un électeur de droite dans un arrondissement à gauche, sa voix comptait peu, puisque finalement, il ne pouvait pas choisir son maire. Aujourd'hui, chaque voix va compter. Donc même si vous vous sentez isolé dans votre arrondissement, dans le 18e ou dans le 19e, vous pouvez toujours voter pour une ville heureuse, car finalement, votre voix va compter et vous pouvez élire directement votre maire. Donc c'est très important de tous se mobiliser et il y a quelque chose de très simple à retenir. Il y a deux enveloppes ce dimanche, une enveloppe jaune pour voter pour Sarah Knafo et une enveloppe bleue pour voter pour tous les candidats de la ville heureuse.
Mais peut-être pour entrer dans le vif du sujet, un des sujets qui intéressent les Parisiens, Emmanuel. Bon, Sarah Knafo est donnée haute dans les sondages, elle est donnée autour de 15-16%. Elle a besoin évidemment du soutien de Parisiens
21,
motivés.
21-22, j'ai vu même.
Non, c'est plutôt autour de 15. Mais enfin, c'est les derniers sondages. En tout cas, c'est les derniers sondages qui sont parus, c'est ce qui se murmure dans le petit Paris. Et Emmanuel, au second tour, Sarah Knafo, elle propose la fusion, elle propose l'alliance tactique et technique avec Rachida Dati. Quelle est la position des militants sur le terrain, les gens que vous avez rencontrés au cours des nombreux tractages?
Écoutez, vous l'avez rappelé, effectivement, Sarah Knafo propose cette union et elle l'a fait dès le début. Ça a été la première, dès qu'elle est rentrée en campagne en janvier dernier, à dire tout de suite, effectivement, moi, j'ai bien conscience qu'il faut l'union des droites à Paris pour remporter. Hilaire Bouyer l'a rappelé, ça fait 25 ans que Paris est gouverné par le socialisme. Je pense que les Parisiens en ont marre et il est grand temps pour Paris de rencontrer une politique un peu différente. Donc voilà, Sarah Knafo a évidemment proposé dès le début l'union, elle qui, depuis qu'elle est entrée dans la vie publique, se bat pour cette union des droites, justement. Vous l'avez rappelé, elle est aujourd'hui aux alentours de 15% dans les sondages. Quand elle est rentrée en campagne en janvier, il me semble qu'elle était aux alentours de 6 ou 7. Donc c'est la candidate qui enregistre la plus belle progression depuis janvier. Les autres candidats stagnent ou sont en chute. Il est intéressant de noter deux choses. Le premier point, c'est qu'effectivement, cette union, Sarah Knafo la propose avec toutes les droites, avec l'ensemble des candidats de droite, que ce soit Thierry Mariani, Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati. Voilà, donc il y a déjà ce premier point. C'est vraiment l'alliance de toutes les droites. Et puis ensuite, on a beaucoup entendu, notamment ces dernières semaines, de la part du camp de Rachida Dati, un appel au vote utile dès le premier tour en disant oui, il faut absolument voter pour Rachida Dati parce que c'est la seule.
C'est assez ridicule au premier tour, puisqu'à partir de 10%, on se maintient.
Oui, c'est ça. Cette histoire de vote utile, d'ailleurs, n'a pas beaucoup de sens, encore moins dans le camp de Rachida Dati. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que quand Sarah Knafo est entrée en campagne, donc en janvier, Rachida Dati était à 27% dans les sondages et donc Sarah Knafo était à 7%. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, soit presque 1h45 avant la fin de la campagne officielle.
Et vous pouvez, il faut le rappeler, encore militer officiellement,
effectivement,
partager sur vos réseaux sociaux, coller les affiches, tracter.
Jusqu'à 23h59 ce soir, on peut continuer la campagne. Et aujourd'hui, Rachida Dati est encore à 27%. Donc c'est intéressant de noter que Rachida Dati a stagné depuis janvier à 27%. Ça veut dire qu'il y a près d'un électeur sur trois qui est prêt à voter pour Rachida Dati. Et on a une Sarah Knafo qui est donc passée de 7 à 15%. Donc en fait, en réalité, le score de la droite a augmenté aujourd'hui à Paris. Quand on additionne ces deux droites-là, qui sont en tout cas les deux camps les plus forts à droite dans les quatre représentés, la somme des électeurs a
grossi. Votre
argument, c'est que en fait, elle a convaincu des abstentionnistes. Elle a créé un électorat entre guillemets en convaincant des abstentionnistes.
Mais vous omettez
aussi de dire que Mariani a quand même baissé entre temps, divisé par deux son électorat. Et oui, Bournazel aussi. Donc finalement, on ne sait pas trop. C'est le principe d'un sondage. On ne sait pas ce que deviennent les électeurs, mais on peut quand même supposer qu'elle a convaincu des électeurs de Bournazel, ce qui n'est pas une mince affaire parce que politiquement, ils sont quand même assez éloignés sur l'échiquier.
Je pense que vous faites une erreur, cher Edouard.
Non, évidemment qu'elle a convaincu des abstentionnistes, mais l'argument de Reconquête, la rhétorique, c'est de dire que tous les nouveaux, les
non,
nouveaux
c'est
électeurs.
Pas vrai.
Non, mais en grande majorité, sont des abstentionnistes.
Peut-être qu'il y a Bourdieu qui a été sur le terrain. Vous le sentez, les électeurs Bournazel sur le terrain, en réalité c'est un rejet de Dati. Qu'est-ce que c'est les électeurs de Bournazel? Bournazel qui fait une campagne, il faut le dire, malgré l'amitié qu'on peut porter à certains de ses candidats, une campagne d'une médiocrité assez rare.
Qui est d'ailleurs a tout de suite dit qu'il ne ferait pas d'alliance.
Oui, mais
Bournazel ne veut pas faire d'alliance.
Je vais vous raconter une anecdote un peu amusante. Oui. Je trouve que je me suis retrouvé à débattre de l'annonce de Sarah Knafo. Sur TF1, Sarah Knafo annonce qu'elle est candidate et le lendemain, on propose gentiment de venir débattre dans un média pour parler de sa candidature et de la façon dont elle est amenée. On me dit qu'il y aura deux journalistes politiques. Je vais dans cette émission et je me retrouve dans le hall d'accueil et je vois quelqu'un de loin. Alors, il se trouve que je n'ai pas une très bonne vue, certes. Et je me dis, mais
c'est vrai.
Ce type-là me dit quelque chose. Mais ayant un peu de boulot à ce moment-là, je me retrouve sur mon téléphone et il s'avance vers moi, un personnage qui me tend la main de façon un peu piteuse.
J'ai la chute.
Et qui me dit « Enchanté, Pierre-Yves Bournazel ». Et
dur.
Je me retrouve avec Pierre-Yves Bournazel en plateau 5 minutes après pour citer l'émission C'est le Figaro. Et je n'ai très rarement vu une personne avec un...
Oui, avec une main aussi flasque, c'est ça?
Non, le mot est dur, je n'aurais pas employé de l'expression, mais...
Oui, mais vous savez...
Louvès, vous qui êtes expert numérique...
Est-ce qu'on peut dire qu'il a le charisme de ses idées? C'est-à-dire
oui,
très
bah, neutre, molle.
Enfin, oui, je dirais très beau.
Mais très
sincèrement, Pierre-Yves Bournazel, je crois qu'il a voulu être candidat uniquement par ego, et notamment poussé également par Monsieur Attal.
Beaucoup d'égo, pas de négo à la fin.
Exactement, mais tout à fait, vous avez
Monsieur
tout à fait
Attal,
raison.
Monsieur Attal, que j'ai vu ce matin,
mais en fait, finalement, je pense que Gabriel Attal, il a voulu emmerder, faut le dire, Emmanuel Macron, avec qui il est en guerre depuis maintenant un an, même deux ans bientôt. Et finalement, ils ont voulu maintenir cette candidature qui, sincèrement, n'a aucun sens aujourd'hui à Paris. Pierre-Yves Bournazel, ça fait 18 ans qu'il est payé par la mairie de Paris. Qu'est-ce qu'il a produit en 18 ans? Je ne sais pas. Un bouquin qui raconte sa vie
personne ne
assez
sait.
Inutile. Est-ce qu'il a un programme réellement complet? On ne sait pas. Est-ce qu'il a une campagne intéressante? On ne sait pas.
Ça, on sait. Elle est inintéressante.
Elle est inintéressante. Est-ce qu'il a un vote intéressant? Également, on le sait. Son vote est inutile.
Sarah Knafo dit que c'est un vote
son inutile,
justement.
Puisque Sarah Knafo a peut-être raison là-dessus.
C'est très simple.
Il faut gagner. Lui, il dit, dès le début, que dans tous les cas, sa candidature ne gagnera pas et qu'il ne fera pas gagner d'autres candidatures puisqu'il ne veut pas s'unir, que ce soit avec la gauche ou avec la droite. Donc son vote est purement inutile, c'est un vote d'ego qui peut-être c'est... parle à certains petits bobos, jeunes petits bobos.
Mais c'est une candidature.
Mais encore, je sais même pas.
C'est une candidature revanche.
Vous m'avez dit Edouard Lavolée avant cette émission.
Revanche par rapport à quoi?
Vous vouliez peut-être un peu challenger. Attendez, un peu de calme dans cette émission.
J'essaye d'analyser la candidature des municipales, forcément.
C'est une émission du soir.
Si Edouard, vous m'avez dit avant cette émission, parce que ça fait quelques semaines qu'on la prépare, vous et moi.
Oui, bien sûr, depuis mi-août 2025 environ.
Vous m'avez dit que vous vouliez un peu challenger aussi Hilaire Bouilliet, qui est un candidat qui parle, rappelons-le, non, mais Hilaire qui est juste ici, il aura le temps de t'expliquer. Mais
et moi j'aime bien les challenges.
Non, mais je sais que vous aimez bien les challenges, Hilaire Bouilliet, mais si je peux poser une question dans cette émission, je la posais. Hilaire Bouilliet qui a battu Thierry Barani à l'époque déjà,
c'est vrai, dans
le 6ème arrondissement de Paris, là où il est candidat. Mais vous voulez le, je crois.
Non, mais bien sûr. Alors, je fais juste une petite insiste sur la candidature Bournazel. Je pense que c'est une candidature revanche sur Dati, parce qu'on a tous lu, lu son bouquin, on a vu les extraits où il dit pique-pente sur Rachida Dati en faisant l'éloge d'Emmanuel Grégoire.
Bien sûr.
Donc, en sous-entendant qu'il apprendrait à voter Grégoire, au second tour. Et c'est aussi une revanche à la fois de Gabriel Attal et à la fois d'Edouard Philippe sur Emmanuel Macron. Et ça, Mathieu Louvès l'a très bien dit. C'est quand même rare que deux poids lourd aussi gros, de poids lourd aussi fort, soutient un candidat qui va faire un score aussi faible. Il va faire peut-être entre 8 et 12, allez, on va prendre une fourchette assez large.
C'est un râteau.
Et voilà, exactement. C'est une bine. Et donc en fait, c'est une candidature évidemment pour prendre des parts de marché à Rachida Dati. Et bon, Bournazel est
clair. La politique, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas un marché.
Exactement. Mais bon, vous savez qu'aussi, la politique, c'est des batailles, c'est parfois des courses égotiques.
Malheureusement,
c'est un sentiment
la politique est abîmée par cela.
Exactement. Et ma question. Ah oui, ma question, parce que vous voulez que je challenge, on va dire que je défie.
Chalon, qu'on parle plus de Pierre-Yves Bournazel que de Thierry Mariani. c'est dire la différence de ce dernier.
Thierry Mariani, c'est à Nice, non? Ah non, pardon.
Ah oui, en quoi?
J'ai confondu le. Et non, alors. Vous plaidez pour la fusion, enfin vous avec.
Non, on plaide pour la victoire de la droite à Paris.
Oui, vous plaidez pour oui, mais bon, c'est l'horizon, mais dans les faits, dans la concrétisation, ça se concrétiserait par une fusion des listes de Rachida Dati et de Sarah Knafo. Est-ce que vous, on sait que la politique c'est pas des mathématiques, c'est pas de l'arithmétique. Est-ce que vous craignez pas que, mettons, politique fiction, Rachida Dati fait 27, Sarah Knafo fait 12. Est-ce que vous craignez pas, c'est l'argument de Rachida Dati pour l'instant, que la personnalité de Sarah Knafo, qui, quoi que vous le disiez, est encore estampillé Éric Zemmour, qui occupe aujourd'hui la figure du diable dans l'espace politique français, qu'il a prise d'ailleurs au Rassemblement National, est-ce que vous craignez pas que ça fasse fuir des électeurs de Rachida Dati qui se reportent sur une autre candidature, ça m'étonnerait qu'ils votent pour Bournazel, ou s'abstiennent, et que finalement votre argument de l'union fait la force et deux électorats s'additionnent, soit se heurte à l'épreuve des faits, même si évidemment il y a d'autres arguments qui peuvent être totalement cohérents et qui peuvent être légitimes pour la fusion. Mais est-ce que vous entendez cet argument qui est donné par l'équipe de Rachida Dati notamment?
Et ils iraient où, ces électeurs?
Mais ils pourraient s'abstenir.
Ah, vous y croyez? Vous pensez pas que les Parisiens veulent une alternance? Vous pensez pas que les Parisiens en ont ras-le-bol du socialisme à Paris?
Oui, mais ils peuvent aussi s'abstenir en estimant que c'est une candidature au repoussoir. On pensait, par exemple, après les élections européennes, que les gens en avaient marre, voulaient vraiment on avait marre de la gauche, ils voulaient vraiment une sorte de révolution nationale. Pour le moment, on a vu que le barrage républicain fonctionnait toujours autant, qu'il y avait un côté
castor. Mais deux ans sont passés.
2 ans ont passé, mais vous
et
savez...
Et on le voit aujourd'hui, sondage après sondage, que les gens ont de moins en moins peur de voter, on va dire, pour des candidatures, des candidats affirmés.
Ouais, mais...
Et je crois qu'aujourd'hui, tant mieux, on va dire, pour le camp national et pour tous ceux qui aspirent à ce que la France redevienne un grand pays, que la gauche aujourd'hui devient un repoussoir pour beaucoup d'électeurs, notamment l'extrême gauche. Et c'est important de le rappeler. Emmanuel Grégoire, ce n'est pas uniquement le PS, c'est aussi les écolos.
C'est Daniel
c'est
Simonet.
Aussi les écolos aussi. Et c'est aussi le Parti communiste. Parce que le Parti communiste, qui d'habitude siège ou fait alliance avec LFI dans d'autres élections, aujourd'hui se retrouve avec Emmanuel Grégoire. Et on a une personnalité comme Yann Brossa qui refuse de reconnaître les massacres des régimes communistes, qui pourrait se retrouver adjoint au maire. Donc je crois qu'aujourd'hui les Parisiens sont à un tournant de leur histoire. On peut mettre fin à 25 ans, donc un quart de siècle de socialisme. C'est beaucoup, 25 ans. Il y a beaucoup de choses à faire pour redresser la ville. Il y a un travail monumental. Je crois que c'est pour ça notamment qu'il n'est plus temps d'espérer de trouver une solution chez une personne comme Pierre-Yves Bournazel, qui a un programme mou, et même Dati, qui a besoin d'avoir un programme un peu plus musclé, que pourrait lui apporter Madame Knafo si il y a alliance au second tour. Mais de toute évidence, il est impératif de voter massivement Sarah Knafo au premier tour pour faire comprendre à tous ceux qui voudraient une alternance que c'est le programme qu'il faut pour renverser la table et redresser Paris.
Cher Mathieu, je reçois à l'instant un mail d'une auditrice de Radio Courtoisie, Diane, qui nous dit ce soir: chers amis, chers chroniqueurs de Radio Courtoisie, je suis très heureux de vous écouter, notamment Hilaire Bouillet qui fait une campagne de terrain et extrêmement motivante dans le 6e arrondissement de Paris.
Merci beaucoup.
Diane nous dit également: j'habite moi-même dans le 7e, mais je suis épaté de l'effet.
Je lui souhaite de voter pour Arthur Paris, en tout cas dans le 7e arrondissement de Paris.
Bah, c'était la suite du message.
Ah pardon, j'ai Paris pour Paris, comme on dit. Paris pour Paris, un de ses slogans.
Et Diane qui finit en me disant: je suis une grande auditrice de Radio Courtoisie, également de Magnus, où elle nous parle d'une BD, celle de Marceau et de Laurent Berton, qui sort sur le sujet parodique du retour du dirigeant nazi Adolf Hitler en France, et qui nous dit également qu'elle est très contente de nous écouter ce soir sur Radio Courtoisie et qu'elle souhaite bon courage pour votre fin de campagne Hilaire. Voilà.
Merci. Merci Diane, l'auditrice.
Tu nous envoies le mail, alors je ne l'ai pas lu dans le détail, mais on est très content de l'avoir en auditrice ce soir.
Bien sûr, et donatrice, je l'espère.
On espère. Édouard Lavolée, peut-être sur les enjeux stratégiques au moment du second tour.
Les enjeux stratégiques sont clairs. Est-ce que l'union des droites pourra se faire enfin pour la première fois dans une élection aussi importante, aussi symbolique? Et de deux, si elle se fait, est-ce qu'elle marchera? Parce que là, ça va être... le juge de paix, l'épreuve du feu. Est-ce que la droite Dati, Knafo va réussir à mettre fin à l'hégémonie de la gauche à Paris, ce qui serait quand même un séisme, un tremblement de terre? Parce que quoi qu'on en dise, bon, la gauche a toujours un programme épouvantable. Quand on discute avec les Parisiens, Hidalgo a successivement mis à feu et à sang la ville.
Elle a saccagé Paris d'ailleurs.
Saccagé Paris, mais pourtant la gauche arrive à rester toujours aussi haute au premier et au second tour. Et ça serait un vrai défi que de faire basculer la ville lumière, notre capitale, à droite. Et évidemment qu'on a eu, alors c'est impossible de dire ça, mais on a eu quand même une candidature sensationnelle dans la candidature de Sarah Knafo, qui a été l'attraction même au niveau national. Je crois pas qu'on ait eu d'autres candidats qui aient fait une campagne aussi efficace sur tous les plans, sur le plan numérique notamment, sur le plan de la communication, même sur le plan des idées et le plan purement politique, des propositions.
Et on voit que ça a parlé aux Parisiens. Je sais pas si vous avez vu la semaine dernière son grand meeting au Dôme de Paris. Elle a réuni plus de 4000 personnes, ce qui est du jamais vu dans l'histoire d'une élection municipale, notamment à Paris. Pour une candidate de droite, c'est encore plus impressionnant.
Elle a objectivement ringardisé tout le monde.
On voit qu'elle parle aux Parisiens.
Dont son concurrent, celui qui commençait être son concurrent le plus sérieux au tout début, en tout cas, Thierry Mariani, qui passait pour un gars de nain assez poussiéreux, assez, non mais faut dire la vérité, assez pas passiste, mais assez caduque, quoi, assez suranné.
Vous avez un vocabulaire très
oui, j'ai les mots sous les yeux. Et donc, voilà, ça serait malhonnête de dire que Sarah Knafo ne constitue pas l'attraction de cette campagne. Après, voilà, ça va être très, très intéressant de voir si 2026 sera la première étape. Ce sera la première pierre d'une potentielle. Bon, je sais même plus ce que je voulais dire. Sera peut-être la première pierre fondatrice d'une union des droites qui pourra se faire peut-être en 2027, peut-être en 2032.
Le plus tôt possible sera mieux
pour redresser la France.
Justement, en parlant d'union à Versailles aussi, une liste fait parler. Fait parler d'elle avec un candidat et une candidate au nom plus que commun, puisqu'ils ont réussi à allier le fait d'être et à la fois un nom propre et un nom, ce qui est une performance assez rare, mais blague à part,
c'est une petite touche d'humour.
Et je me permets, parce que c'est d'ailleurs un article qui sortira, je crois, mais je veux évidemment être prudent pour les auditeurs versaillais. Une manipulation, il me semble, d'imprimeur et de la préfecture plutôt mal intentionnée. En tout cas, c'est cabale. Ce qui se murmure sur le.
Oui, bon, écoutez, merci Stanislas. Je m'attendais évidemment à ce que vous me parliez de ce problème qui est effectivement arrivé cette semaine sur une erreur d'impression. Il y a eu tout un mélange de problèmes là-dessus, mais en fait, c'est pas tellement le sujet de fond, nos détracteurs, notamment, d'ailleurs uniquement les LFistes.
Détracteurs,
c'est les présidents d'Azkaban.
Mais je tiens à préciser qu'Emmanuel Picot a des lunettes comme Monsieur Harry Potter. C'est ce qui lui a fait qu'il a confondu les détracteurs.
Excusez-moi. Nos détracteurs sont uniquement des LFistes et ça montre bien à quel point les Versaillais ne sont pas dupes sur ce sujet-là et ils s'intéressent au fond et non pas à la forme de ce problème ridicule qui en
évidemment,
tout cas
pas du fond Emmanuel évidemment n'influencera pas
le vote des Versaillais, mais vous avez bien le droit et j'en aurais fait probablement la même chose à votre place, cher Stanislas, mais évidemment le sujet de fond, c'est la liste reconquête à Versailles. Écoutez, on a la chance d'avoir un socle à Versailles important. En 2022, Éric Zemmour a réussi à réunir près de 18% des voix à l'élection présidentielle. Donc voilà, on sait que c'est des sujets, les sujets portés par Reconquête sont des sujets qui sont chers aux Versaillais. Et on s'efforcera avec notre tête de liste Sabine Clément à les porter à la mairie au sein du conseil municipal et avec Sabine comme maire, je l'espère.
Chers amis, on revient dans quelques instants après avoir écouté cette chanson de la Flèche à Billon d'un corps de l'armée française de l'EMIA, une promotion qui est la promotion du capitaine Bianca Maria. Et nous reviendrons évidemment après sur les sujets politiques et la politique, pas seulement à Paris, mais partout en France, même s'il est à Bouillé, nous dévoilera peut-être ses secrets de campagne dans quelques instants. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, à tout de suite. Chers amis, de nouveau en direct pour cette dernière partie de l'émission Prolongation. Cette émission que vous pouvez retrouver deux fois par mois, de 21h30 à 23h, en direct sur Radio Courtoisie. Et ce soir, j'ai la chance d'avoir un plateau de grande qualité avec un public qui est assez exceptionnel, avec des hommes de l'ombre, ceux qui font du bien aux campagnes, mais également avec un plateau fait de personnalités, de talents, Edouard Lavolée, notamment journaliste et éditorialiste. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, comment allez-vous?
Bah écoutez, toujours bien depuis tout à l'heure, et vous?
Bah oui, bah ça n'a pas changé, bah encore mieux depuis tout à l'heure. Depuis votre présence et la présence d'éminence du monde de la politique autour de la table.
Votre gentillesse m'honore.
Exactement.
Et en parlant d'intelligence, évidemment, Hilaire Bouyer, candidat dans le 6e arrondissement de Paris, outsider de la campagne de cette belle mairie qui est le 6e arrondissement de Paris. Bonsoir Hilaire.
Rebonsoir Stanislas et rebonsoir à tous et à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Effectivement, tout peut se passer dans le 6e arrondissement. On a eu de très très bons retours pendant ces 3 mois de campagne. J'avais déjà eu de très très bons retours pendant ma campagne en septembre dernier lors de la législative partielle face à Michel Barnier, ancien Premier ministre, face à Thierry Marani, éphémère ministre des Transports, et face à une ancienne ministre de gauche. La campagne s'était très bien passée, les résultats étaient bons. On a été satisfait à l'époque et on espère aller encore plus loin aujourd'hui lors de cette campagne municipale.
Mais pourquoi, alors, la question un peu à 6 francs 6 sous, mais pourquoi voter pour vous plutôt que Jean-Pierre Lecoq dans le 6e arrondissement de Paris?
Écoutez, Jean-Pierre Lecoq est une personne très respectable et respectée. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, d'échanger avec lui. Et c'est vraiment une belle personne. Mais je pense que Jean-Pierre Lecoq a fait déjà beaucoup de mandats. Il est déjà maire depuis 32 ans. Je n'en ai que 26. Je n'étais pas né qu'il était déjà maire du 6e arrondissement. Et les retours que j'ai, notamment de tous les commerçants que j'ai pu voir dans ce beau 6e arrondissement, est que le 6e arrondissement a perdu son esprit d'arrondissement village. Il n'y a plus cette solidarité, il n'y a plus cet accompagnement de la mairie pour les commerçants. Les commerçants ont besoin de liberté, les commerçants ont besoin que les Parisiens puissent se garer. C'est très simple, oui. Ça paraît très bête, mais que les riverains puissent se garer pour aller faire leurs courses dans cet arrondissement. Avec Sarah Knafo, ça deviendra possible avec la première heure gratuite, avec la gratuité entre midi et 14h, avec un prix du stationnement unique de 5€ de l'heure, avec un stationnement pour les résidents dans l'arrondissement qui sera étendu à tout l'arrondissement. Ce sont des choses très simples. Hein. Non, mais je vais en finir. Mais ce sont des choses très simples, mais qui sont demandées par les commerçants que j'ai encore vu tout à l'heure et que je retournerai voir tout à l'heure.
Alors, cher Hilaire, merci. Et j'ai une question justement de Cassandre. Cassandre, qui est une auditrice de Radio Courtoisie, qui nous dit j'ai pu voir Hilaire Bouyer faire campagne dans le 6e arrondissement de Paris, pardon. Une campagne de terrain avec beaucoup de conviction, dit-elle. Et je voulais savoir quelle serait sa première mesure en tant que maire du 6e arrondissement de Paris. Et puis Audrey, qui nous dit Hilaire Bouyer est un jeune homme talentueux pour qui j'ai voté à l'occasion de la législative partielle d'automne dernier. Comment faire pour le soutenir de toutes mes forces pour les quelques minutes qui me restent avant l'heure fatidique qui empêche de faire campagne? On en profite évidemment pour saluer Audrey et Cassandre, qui sont des auditrices fidèles de Radio Courtoisie et qui, j'espère, passent une bonne soirée et ne feront pas de sieste d'ici votre réponse, évidemment, cher Hilaire.
Cher Audrey, il vous reste 1h21 pour convaincre autour de vous jusqu'à 23h59 et pour appeler à un vote massif pour ma candidature, pour ma liste. Sur ma liste, il y a des commerçants, il y a des pères de famille, il y a des historiques de l'arrondissement. Je suis soutenu par Laurent qui travaille depuis des années dans ce quartier.
Pour Audrey et Cassandre.
Laurent, c'est un personnage qui est monté de Béziers pour travailler à Paris, pour travailler
plus connu sous le Lolo.
De Lolo, exactement. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est un personnage du 6e arrondissement. Ce sont des personnages qui, avec leur joie de vivre et leur bonheur, transmettent même ce bonheur, cette joie de vivre à tous les habitants et tous les riverains. Moi, je veux un 6e arrondissement apaisé. Je veux qu'enfin, tous ces commerces qui sont vides, tous ces bails qui sont à céder soient repris. Effectivement, quand on voit la rue de Rennes, il y a encore quelques dizaines d'années, la rue de Rennes avait une réelle identité. Aujourd'hui, la rue de Rennes, ce sont des franchises, ce sont des marques, et c'est devenu une rue. C'est devenu une rue complètement impersonnelle. Effectivement, moi, quand un boucher doit partir, je veux qu'un boucher reprenne la suite. Et je ne veux pas forcément que ce soit un otakos qui reprenne la suite. Je ne veux pas que le 6e arrondissement soit pollué par des livreurs Uber Eats qui traînent toute la soirée et toute la sainte journée.
Et qui laissent en plus, rappelons-le, quand même, parfois même des livraisons traînées. dans les halls d'immeubles parce que certains clients ne prennent pas les commandes. Et c'est vrai
mais
que
effectivement, ça arrive et ça pourrit la vie de tout le monde. Ça met des odeurs désagréables.
Mathieu Louvès qui est également parmi nous ce soir. Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Merci.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de la communication numérique et vous avez suivi de très
même
près.
Communication politique, on peut le dire.
Communication numérique, politique tout court, pardon. Vous avez raison. Votre précision vous honore. Et Emmanuel Picot qui est candidat à Versailles. Alors,
rebonsoir Stanislas, rebonsoir à tous les auditeurs.
En quelle position, cher Emmanuel?
Écoutez, je suis sur la liste à la reconquête de Versailles, à la quatrième position sur la liste. Donc voilà.
Et je sais, comment vous sentez cette élection à venir?
Écoutez, serein, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, en 2022, lors de l'élection présidentielle, pardon, Éric Zemmour a réuni près de 18% des voix. Voilà, c'est, je pense, une ville historique, une ville royale, une ville qui est ancrée en France et qui doit le rester. Et c'est donc par toutes ces précisions-là, une ville qui est attachée aux valeurs auxquelles Reconquête attache de l'importance. Donc voilà, écoutez, je suis serein, on a mené une belle campagne. Les retours du terrain sont très, très enrichissants et très encourageants. Donc voilà, écoutez, on attend les résultats de ce premier tour de dimanche soir avec impatience avant de se remettre en campagne dès lundi matin à Versailles pour le second tour.
Et dans la volée, vous avez suivi de très près la campagne de Thierry Mariani également.
Exactement.
Candidat à la mairie de Paris.
Bah alors, non, mais le problème de Thierry Mariani, c'est qu'on a assisté à une campagne qui a d'ailleurs fonctionner d'invisibilisation de ce candidat qui est quand même une figure majeure de la vie politique française de la 5ème République.
Doucement sur le complotisme.
Non, mais
quand on ne fait pas de campagne, effectivement.
Je vois que vous êtes gêné aux entendus, monsieur Bouillet.
Non.
Il a laissé parler,
je voulais finir, mais c'est inacceptable.
On ne peut pas omettre sur cette campagne les qualités humaines et surtout politiques de Thierry Mariani, sa stature internationale, son entre-gens très développé.
Il y a sûrement avec les Ouzbeks ou les Russes, mais je ne suis pas sûr qu'il s'intéresse grandement aux Parisiens.
Ce petit monsieur Louvès, ça compte beaucoup. Et il faut savoir que Thierry Mariani, qui est en plus d'être un homme,
qui est une belle personne, ce n'est pas le sujet.
A proposé des
c'est
vraiment
le, a eu du
des
sud
idées,
le moins chaleureux que je connaisse
idées,
de la terre.
Des, mais... idées novatrices, notamment celle de la préférence nationale, qui avait jamais été proposée, il me semble,
dans l'ensemble de la classe politique, personne n'a jamais proposé
français,
ça.
Ouais. Et bah, Thierry Mariani, moi je le vois un peu
comme un pionnier, au Kyrgyzstan.
Pour moi, c'est Julian Assange de la politique en ce moment. C'est-à-dire, je le vois comme un lanceur d'alerte qui ose.
Peut-être parce qu'il s'habille sobrement et tout au noir. C'est peut-être les seuls
ressemblances
qu'ils ont tous les deux.
Il l'a transformé en beau window. Et excusez-moi, qui a fait ça sur les 5-10 dernières années en politique? Personne.
Ah bah personne, même sur les 50 dernières années, oui, non, vraiment personne.
Donc, je ne comprends pas comment arithmétiquement ce candidat peut être à 3 ou 4.
Par contre, j'aimerais préciser un
truc. Peut-être manque de campagne tout court, il ne fait pas campagne.
J'aimerais donner un point à monsieur Lavolée. Peut-être que Thierry Mariani peut avoir des innovatrices, je ne suis pas sûr que ce soit la préférence nationale, mais en tout cas, il en a eu une. C'est le kebab de cochon, le kebab breton. C'était la seule idée novatrice de sa campagne.
Quand il mange un tartare au resto, c'est brillant.
Mais non, mais j'ai entendu qu'il voulait remplacer tous les hauts tacos par des kebabs de cochon. Mais c'est bien, mais ça fait pas un programme municipal.
Oui, voilà.
J'en suis désolé.
On rigole un peu.
Essayez de voir la volée parler.
Vous arrêtez sur des détails, tout ça, c'est pour parler aux jeunes.
D'ailleurs, j'aimerais savoir son tartare avec plus d'œuf dessus ou sans œuf.
Non,
moi, c'est avec œuf.
Évidemment, il prend toujours de l'œuf. Mariani est un fan d'œuf. Vous devriez vous renseigner sur lui pour comprendre un peu sa psyché. Vous avez pas lu son livre. Ça montre vraiment que vous ne vous intéressez pas à vos concurrents les plus
j'ai
proches.
J'ai pas lu sa biographie sur Poutine, effectivement.
Le point Godwin, voilà. Oui, oh là, c'est pas parce qu'il va voir 2-3 fois Lavrov en Russie en fin d'année
Thierry Mariani est un sérieux qui a été ministre, qui a fait une excellente campagne à l'époque en PACA en 2021, qui est un candidat qui a des idées, qui j'espère appellera à soutenir.
Bien sûr,
sera Knafo au second tour, bien sûr.
C'est un homme de responsabilité, donc il le fera.
Évidemment.
Tout comme Reconquête a toujours à l'époque appelé à voter pour le candidat du Rassemblement National ou le candidat de la droite le mieux placé, il faut aussi le dire, Mariani fait une campagne courageuse avec des moyens qui ne lui ont toujours pas été alloués.
On espère qu'il soutiendra le candidat
de la droite nationale le mieux placé.
Mais on espère qu'il aura le droit
et que. Alors c'est intéressant ce que vous dites, allez-y.
Non, mais on espère surtout qu'effectivement son patron et sa patronne, Jordan Bardella et Marine Le Pen, lui donneront le droit au second tour s'il n'est
pas qualifié, ce que selon tous les sondages arrivera. On espère que voilà, il aura la permission de soutenir un candidat, en l'occurrence une candidate, Sarah Knafo, et que voilà, comme dans moi, beaucoup j'espère. D'autres villes.
Mathieu Louvès, allez-y.
J'espère que même s'il a pas la permission, il ne respectera pas cet ordre-là.
Vous attendez, ils appelleront à voter
pour
ça.
Vous savez, la permission, arrêtez, la permission c'est les parents qui les donnent. Mais pour être parent, il faut pouvoir. Il faut accompagner son enfant, le soutenir et le faire grandir. Là, aujourd'hui, les parents de M. Thierry Mariani, pour faire une métaphore, ne l'ont pas du tout soutenu, ni aidé à grandir.
Vous êtes dur.
Donc je crois qu'il aurait tout à fait raison de leur désobéir aujourd'hui et d'appeler.
On n'en est pas là, on n'en est pas là.
On n'en est pas là.
J'ai même lu dans la presse, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, que c'est Marion Maréchal au début qui devait se présenter à Paris et que c'est Jordan Bardella qui aurait mis le holà.
Je crois qu'elle avait peur de se prendre une guerre.
Est-ce que vous confirmez cette info qui a assez peu tourné d'ailleurs?
Non, non, c'est une info que j'ai jamais dit confirmée par personne. Tim Mariani est le candidat des informations que j'ai en ma possession. Le candidat légitime et du Rassemblement National, Marion Maréchal. Est députée européenne et fait un travail remarquable auprès de l'ECR. Mais peut-être pour revenir sur ce sujet des municipales dans le détail, à Paris, c'est une élection intéressante qui joue, mais le sujet des pédophiles de la mairie. c'est pas du tout un sujet drôle, mais des pédophiles dans le périscolaire à Paris.
Les animateurs dans le périscolaire.
Il y a une véritable omerta, c'est
inacceptable.
C'est vrai que la façon dont je l'ai dit aurait pu l'être, mais il y a encore eu une affaire révélée par mon ami Guillaume Carayon à la Ligue des Libertés avec l'avocat Louis Caillez cette semaine. Mais encore cette semaine, une affaire de pédophilie dans le périscolaire. Mais il est arbouillé, est-ce que Sarah Knafo a des solutions pour lutter contre ça?
Tout d'abord, cette affaire et cette omerta dans le périscolaire et tout ce qui se passe, et pour le résumer pour vos auditeurs très simplement et très rapidement, on a des animateurs dans le périscolaire qui ont été accusés, qui sont accusés de viol sur des enfants, de très jeunes enfants, dans des écoles à Paris. On a d'un autre côté une mairie de Paris qui aurait caché ces affaires, et c'est évidemment honteux, inacceptable et glaçant. On a des articles de presse qui sortent malheureusement en ce moment tous les jours, sur des histoires horribles, sur des témoignages de parents complètement affreux. On a une solution qui est très très simple là-dessus avec Sarah Knafo et qui est tellement simple, tellement évidente qu'on se demande vraiment pourquoi elle n'a pas été appliquée, qui est de faire passer tous les animateurs du périscolaire au fichier des agresseurs sexuels. C'est une solution qui est très simple, qui est pleine de bon sens et qu'il faudra mettre en place dès que Sarah Knafo arrivera à la mairie de Paris. C'est la première solution. On a une autre proposition très forte avec Sarah Knafo et le programme pour une ville heureuse à Paris. Et on a réfléchi avec toute l'équipe du programme pour savoir quel était le tiers de confiance, quelle serait la bonne personne à mettre avec des enfants, à mettre en tant qu'animateur dans le périscolaire. Et la solution nous est venue de manière assez évidente, qui est de mettre les grands-parents. Les grands-parents, ce sont les personnes de confiance, ce sont des personnes qui ont du temps et ce sont des personnes qui aiment transmettre, qui aiment s'occuper des enfants. C'est ce qu'ils font avec leurs petits-enfants. Et la meilleure personne de confiance,
son grand-père s'appelle Jacques Lang.
C'est oui, ça, évidemment. Mais c'est le grand-père, le grand-père ou la grand-mère d'un ami de la classe. Qu'on peut mettre pour animer des activités, pour transmettre des connaissances, des compétences. Mais plusieurs choses seront à dénoncer, plusieurs choses seront à creuser après cette campagne et quand on accédera à la mairie de Paris, c'est savoir qui a caché quoi. Et ça sera très important parce qu'il faut des responsables, parce qu'il y a des responsables dans ce scandale des animateurs dans le périscolaire. Ce sera aussi de régler ce problème en passant tous les animateurs du périscolaire au fichier des agresseurs sexuels et enfin d'amener une solution proposée aux grands-parents qui auront dans ce cas-là un complément de revenu de s'occuper de cette animation dans le périscolaire. Et tout ce que je viens de vous démontrer, de vous proposer, c'est assez intéressant parce que ça ressemble à tout le programme de Sarah Knafo. À chaque fois, on trouve un problème. On veut savoir qui sont les responsables, les socialistes, de manière très, très générale, et on arrive avec des solutions qui sont sourcées et chiffrées. Et c'est aussi ça la campagne de Sarah Knafo qui a été la campagne la plus crédible, la plus solide, parce qu'elle a été la plus chiffrée et la plus sourcée pour la capitale.
J'aimerais juste, avant que
Mathieu Louvès,
l'émission
peut-être,
termine,
il reste une petite, moins d'une dizaine de minutes.
Faire un parallèle entre ce que vient de dire brillamment Hilaire Bouyer, qui, je le rappelle, est candidat dans le 6e arrondissement de Paris, pour une ville heureuse,
il y a un sujet extrêmement inquiétant aujourd'hui qui concerne la pédocriminalité. On le voit à la mairie de Paris avec le scandale des périscolaires, on le voit avec le dossier Epstein. Il y a un vrai scandale autour de la pédocriminalité et on se demande pourquoi tous ces gens ont été protégés, pourquoi il y a eu une telle omerta autour de tout ça. Et la question, sans être complotiste, mais je pense que se posent tous les Français, c'est y a-t-il des gens aujourd'hui très haut placés dans la justice, dans la politique, dans les médias qui participent à cette pédocriminalité et qui protègent tous ces individus-là?
Là, y a un ange passe dans le studio. Vous avez des noms, Mathieu Louvès? Vous avez une révélation à faire à 22h51
Non, justement, c'est une question.
Non, mais Edouard, la volée, rigole un peu. Edouard, allez où vous autres pensez. Mathieu pose une vraie question. Mathieu Louvès pose une vraie question.
Oui, bien sûr. Mais c'est sujet comme ça,
il faut être extrêmement...
Et on l'a vu dans les affaires Epstein.
Et l'affaire
beaucoup
Epstein,
de personnes très haut placées. On va citer quelques noms. Monsieur Jacques Lang, Monsieur Bill Clinton... on pourrait en citer d'autres, le prince Andrew en Angleterre, des gens très haut placés étaient mouillés dans ces affaires-là. Et est-ce qu'en France, qui la France est énormément citée dans l'affaire Epstein, pourquoi en France, bizarrement, à part le nom de Jack Lang, mais qui est déjà connu depuis des années, pourquoi d'autres noms ne sortent pas alors qu'on sait très bien qu'il y en a sûrement?
Non, mais je pense aussi que la presse est évidemment, une qualité, est très précautionneuse sur cette affaire parce qu'elle veut éviter l'emballement médiatique. Quand on regarde les millions de dossiers Epstein, il y a un peu de tout dedans. Il y a des noms qui sont cités un peu en pâture par-ci, par-là, et c'est pas parce que le nom est cité qu'on est forcément incriminé.
Bien sûr, il y a aussi
toute une mouvance, alors plutôt aux États-Unis, notamment la mouvance QAnon, qui, elle, pousse le délire un peu plus loin en étant persuadée que des élites corrompues et pédocriminelles contrôlent le monde, et notamment bercées par le film Sound of Freedom.
Ça, nous n'irons pas jusque-là non plus.
Qui avait cartonné. Non, mais je pense que si on peut expliquer ces pudeurs de gazelle, entre guillemets, par une presse qui a peur d'alimenter certaines psychoses et certaines névroses d'une partie de la population. Mais c'est vrai qu'il y a une opacité aussi qui existe et qui peut poser question sur cette affaire. Et oui, c'est évident qu'il y a des personnalités du monde politico-médiatique qui sont mouillées, comme vous le dites très très bien, Mathieu Louvès, dans cette affaire-là. Mais encore une fois, le temps, on sait très bien que le temps de la justice, le temps judiciaire, n'est pas le temps médiatique, et qu'il faut être très prudent quand on met un nom dans l'arène de la société, entre guillemets, dans l'arène médiatique, et que ça peut détruire des vies, des destins, et ça peut pousser des gens.
C'est pour ça que j'ai cherché des noms.
Chers amis, il nous reste 4 minutes d'émission. C'est un sujet évidemment ô combien important, et j'espère que nous aurons l'occasion de dénoncer de nouveau les ignobles pro-pédophiles dans cette émission, évidemment. Et c'est un sujet qui touche beaucoup de Français, sur un sujet évidemment beaucoup, beaucoup plus léger. Mais pour conclure cette émission,
c'est ma partie préférée de l'émission.
Il est bouillé. Quel signe astrologique êtes-vous?
Gémeaux, je suis né le 7 juin 1999.
L'horoscope dédié aux élections municipales vient de sortir et je l'ai sous les yeux. Gémeaux, vous changez de programme 3 fois dans la journée. Heureusement, votre discours reste convaincant.
Et j'ai une réponse à donner parce que j'ai vu cela passer aussi sur l'horoscope. Et je change de programme de tractage ou de rencontre avec les commerçants beaucoup plus de fois, je vous rassure, que 3 fois
J'espère
par jour.
De programme politique.
De programme politique, ma ligne a toujours été très claire, évidemment. Mais quand je suis appelé par un commerçant qui demande mon soutien, quand je suis appelé par un militant qui veut me rencontrer, un sympathisant, un futur électeur, effectivement, je change de programme très régulièrement.
Mathieu Louvès, quel signe astrologique êtes-vous?
Mais écoutez, moi, je suis Bélier.
Bah écoutez, Bélier, qu'est-ce qu'il dit sur les Béliers? Bélier, vous avez l'âme d'un candidat aujourd'hui. Attention à ne pas promettre un rond-point à chaque coin de rue.
Alors, je fais rarement de promesses, et encore moins de promesses non tenues. Et malheureusement, ou heureusement pour les personnes avec qui je travaille, je ne suis pas candidat, ce qui me laisse le temps de travailler pleinement sur la campagne et d'être, je l'estime, d'une efficacité redoutable essayer de faire gagner les personnes que je soutiens aujourd'hui.
Mais évidemment, vos clients restent secrets, c'est tout l'art et tout le secret des affaires. Emmanuel, quel signe astrologique êtes-vous?
Écoutez, c'est une question intéressante. Je connaissais même pas, figurez-vous, mon signe avant cette émission.
Je crois qu'il connaît ni son prénom ni le nom de sa ville.
Nonville.
C'est extrêmement bas.
C'est une petite touche d'humour.
C'est extrêmement bas, humour
et politique, l'émission en prolongation.
Non, mais donc j'ai regardé et puis je suis scorpion, cher Stanislas.
Scorpion, stratège distrait, vous observez les autres candidats avant de sortir votre coup politique.
Eh ben écoutez, notre coup politique avec Reconquête, notamment à Versailles, c'était ce coup de com, on peut le dire, on peut l'appeler comme ça.
Vous avez fait parler de votre liste.
Voilà, exactement.
Quel talent.
Avec la Reconquête.
En tant qu'expert de la communication, voilà. Il faut le dire, ça a marché.
Bah ça a extrêmement bien marché.
Et moi-même, en tant que Taureau, alors je sais que Edouard, vous êtes aussi Gémeaux, ouais. Mais en tant que Taureau, vous préférez être le meilleur de tous comme d'habitude. Priorisez évidemment votre talent, votre intelligence au service du bien commun et des citoyens. Stanislas, vous êtes brillantissime.
Non mais c'est toi qui l'as écrit, ça c'est pas possible.
Il a écrit
sur son calepin. Vous êtes le futur président.
Ah, et Jean-Philippe
qui est au G20.
Et je reçois un message à l'instant de Jean-Philippe.
Tanguy
qui est, Non, Jean-Philippe qui est un auditeur, qui est balance. Et la balance est, vous cherchez le consensus, résultat, tout le monde est d'accord, mais personne ne sait sur quoi. Cette petite phrase un peu philosophique pour les 1 minute qui nous reste.
Peut-être que Jean-Philippe se reconnaît d'ailleurs là-dedans.
Peut-être me permet de lancer cette dernière question en quelques mots. Il nous reste 1 minute 11. Ouais. Si vous deviez avoir un mot pour les élections municipales à venir, Edouard, et on va faire le tour de tout le monde.
Un mot ?
Un mot.
Fraternité. Ah non, un mot plus long. Non, mais un mot
un
quoi
mot, un mot,
c'est-à-dire un mot,
mot pour fraternité, c'était bien.
Fraternité ? Oui, bah c'est... oui, voilà. Bah c'est la devise. J'en sais rien, un mot, c'est très dur. Non, alors, non, mais je dirais, c'est nul, mais décisive, quoi. Enfin, décisive. Tournant, allez, tournant. C'est un tournant. Voilà. Est-ce que des villes vont basculer, notamment du côté du RN ?
Ah, bien sûr.
Je crois que tu arrives plus d'un mot, mais.
Je ne dirais pas un mot, je dirais une ville heureuse, prospère, habitable et en sécurité.
Mathieu Louvet, c'est l'expert en communication.
Moi, je dirais un mot, c'est. Ce qui a illuminé, on va dire, la campagne municipale à Paris, c'est le jaune.
Une saga. Voilà.
C'est le jaune. Emmanuel Picot.
Je dirais historique. je dirais historique. La chance que Paris a de passer à droite, c'est historique. Et les Parisiens ont besoin de cette alliance. Et pour ça, voilà, votez pour la candidate qui vous ressemble le plus. Sans faire d'appel au vote, voter pour une ville heureuse.
Merci beaucoup, chers amis. Versailles aussi, également, toutes les villes, soyez concernés. Je vous dis à bientôt dans 2 semaines. Votez et votez bien.
Vous venez d'entendre Prolongation dirigée par Stanislas Rigaud, diffusée en direct sur Radio Courtoisie vendredi 13 mars 2026 de 21h30 à 23h. Et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.